me que se passe teu?
Me que se passe teu?
Oh, me qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 26 mai 2026. On commence avant toute chose par ce communiqué qui nous vient de parents d'élèves inquiets, les parents de l'élève de l'école de Casillac qui souhaitent nous alerter sur une nouvelle fermeture de classe qui est annoncée pour la rentrée de septembre 2026. Ça serait la troisième fermeture en seulement 6 ans. Puisqu'en 2022, il y en a déjà eu une, et en 2024 aussi. Ça pourrait entraîner la suppression de la classe de CM2 et le départ de leur enseignante bien-aimée, Laure. L'école de Le Casillac accueillait initialement les enfants des deux communes, Larocque et Casillac. Depuis 2021, les enfants de Larocque ont été donc redirigés vers Ganges par décision de la communauté des communes, ce qui provoque une baisse progressive des effectifs. Et aujourd'hui, malgré cette fermeture qui est donc envisagée, eh bien, si ça faisait, les classes compteraient encore environ 19 élèves en moyenne, qui est donc en dessous de la moyenne. Les parents dénoncent donc une décision basée uniquement sur des chiffres, sans prise en compte du bien-être des enfants, des conditions d'apprentissage, ni de la difficulté pour des enseignants et enseignantes de gérer des classes à triple niveau. Une rencontre est prévue avec le nouveau président de la communauté des communes, M. Siribino, ce 9 juin, pour échanger justement sur l'avenir de cette école de Casillac. Mais d'ores et déjà, une pétition citoyenne a été mise en ligne. Elle est sur le site onparticipe.fr et vous tapez école de Casillac si vous voulez retrouver aussi le communiqué. On va revenir maintenant sur la nuit de violence qu'il y a eu à Paris entre jeudi et vendredi, hein, des violences impliquant des supporters de l'OGC Nice qui étaient présents à Paris. C'était la veille de la Coupe de France, hein, ces supporters niçois, mais semblerait-il accompagnés de supporters hooligans d'autres clubs, ont semé le chaos dans le centre de Paris, aux abords du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Une rixe impliquant plusieurs groupes de supporters. Ça, c'est la manière dont les médias en ont parlé de manière assez massive. Cette rixe a éclaté dans le centre de Paris, donc à la veille de la finale de Coupe de France de football, hein, qui opposait Nice à Lens. Sur le lieu, des interpellations ont été retrouvées, des gants coquets, des protège-dents, des cagoules à l'effigie du club OGC Nice. Suite à ces événements, 65 personnes ont été placées en garde à vue pour des violences volontaires aggravées, destruction ou dégradation volontaire, participation à un groupement en vue de commettre des violences et dégradations, etc., et ou organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique. Ça, ce sont donc le communiqué, les faits rapportés dans la presse, transmis par la préfecture. Mais si on regarde un peu les témoignages et dans les faits, c'est un petit peu plus grave que cela. Et d'ailleurs, ça a été assez minimisé au niveau médiatique, c'est un autre aspect de cette affaire. Je vous lis quelques témoignages. 23h dans le 10e arrondissement, donc on est à l'entour du canal Saint-Martin, des supporters de l'OGC Nice, tout en noir, visage parfois cagoulé, se préparent, donc s'habillent, mettent leurs armes et défilent autour du canal Saint-Martin. Donc, vers 23h30, une rixe éclate. Les Niçois semblent affronter un plus petit groupe, peut-être des supporters du PSG. Au milieu, un homme gît au sol, un homme violemment tabassé à coups de pied, coups de poing. Un des témoins se souvient. Ils sont arrivés, dit-il, ils ont massacré tout le monde, ils insultaient tout le monde. On va vous tuer. Il y avait des chefs d'équipe qui leur disaient « vous faites comme ci, vous faites comme ça ». Ils étaient très organisés. Un restaurant a fait les frais de la colère, il a été visé, des tables, des chaises fracassées contre les vitrines. Les témoins qui ont été interrogés par le média Street Press soulignent l'orientation évidente à l'extrême droite de leurs agresseurs. Voici ce qu'un des jeunes hommes qui était présent ce soir-là raconte. C'était vraiment 150 personnes qui marchaient de la manière la plus menaçante possible et qui éclatent absolument tout ce qui passe devant eux. Et d'ailleurs, ce jeune homme était présent sur place, pas pour le match. Hein. Il faut savoir que le canal Saint-Martin, dès qu'il fait beau, c'est les rendez-vous de la jeunesse parisienne. Il y a des bars des deux côtés. On peut s'asseoir sur les pavés face au canal, discuter entre amis, donc plutôt des jeunes. Donc pas du tout des supporters de football. Lui était présent sur place, par exemple, avec une vingtaine d'amis pour une soirée. Donc ils sont posés au bord du canal Saint-Martin, avec des centaines de jeunes, comme je vous le disais. Ils ont vu débouler une centaine d'hommes, de jeunes hommes, au niveau du quai de Valmy. Il s'agissait d'une mob, c'est ainsi que les supporters appellent ces bandes organisées de supporters ultra ou de hooligans, une meute quoi. Donc dedans, des Niçois, dont le club jouait le soir même la finale de Coupe de France, mais aussi des hooligans lillois et des Nancyens, qui sont alliés des Niçois depuis des décennies, et notamment pour leurs accointances pour les idéologies d'extrême droite. Ils sont donc venus la veille du match pour en avance dans les rues parisiennes pour en découdre, ou plutôt on pourra dire pour se faire plaisir. Dans les scènes qui ont été filmées par les habitants ou les passants, donc on voit ces groupes d'hommes foncer vers un bar, l'Atmosphère, qui est à l'angle de la rue Lucien Sempet et la rue des Récollets. Et ensuite, pendant de longues minutes, ce groupe envoie des projectiles dans le bar, tape sur les fenêtres avec des chaises, hein, les fenêtres volent. Dans l'autre vidéo, on voit ces deux groupes face à face devant le bar qui s'envoient à tour de rôle des chaises en pleine poire, donc visiblement ils avaient quand même des hooligans en face d'eux. Selon d'ailleurs le journal L'Équipe, qui s'est procuré des vidéos, ce début de bagarre très rapide aurait éclaté sur la passerelle au-dessus du canal Saint-Martin, donc entre les Niçois et quelques dizaines de Parisiens qui sont venus pour les confronter. Et c'est les Parisiens donc, qui se seraient retranchés dans le bar L'Atmosphère, d'où après la mise à sac du restaurant et aussi des clients qui étaient présents là. Un autre exemple, un autre témoignage est rapporté par cette jeune femme de 24 ans, Martina, qui a passé la soirée à chercher ses amis qui étaient dans le bar pendant l'attaque, hein, donc elle avait peur qu'elle soit blessée. Elle a vu passer ce groupe ultra-violent devant le canal. Elle a par exemple entendu, et de nombreux autres témoignages, un membre dire « ce soir, on va casser du noir et de l'arabe ». Elle a vu des symboles nazis arborés par certains de ses participants. Et quand elle a compris que la bande se dirigeait donc vers le quai de Valmy et que ses amis étaient à l'intérieur du bar, elle a tenté de les appeler en vain. Celle-ci s'était cachée avec d'autres clients du bar, sous les tables ou dans les escaliers proches des toilettes. Certains clients avaient les mains pleines de sang à cause des jets de bouteilles en verre. Pendant ces violences, un homme plus âgé, un homme noir, a tenté de s'interposer pour calmer tout le monde. Eh bien, ce que le vingtenaire appelle un daron, donc quelqu'un de plutôt 30 à 40 ans, a été poignardé dans le dos. Il a reçu un coup de couteau dans le dos alors qu'il essayait de séparer les gens. D'ailleurs, quand les policiers sont arrivés, cet homme s'est mis à crier. Il était blessé sous le coup de l'adrénaline. Et les policiers sur place n'ont rien trouvé à mieux à faire que de le gazer au visage au lieu de poursuivre les agresseurs. Et même quand les jeunes se présentent, disent « Non, mais lui, il s'est fait poignarder. Appelez les secours. » Les policiers ont dit « Bah non, appelez-les vous-même les secours. » Voilà, il y a des vidéos de témoignages assez glaçantes sur la manière aussi dont ça a été géré au niveau policier. Tous ces faits sont confirmés par des témoins. Mais, je vous le disais encore une fois, assez minimisés dans le traitement médiatique de ce qu'ils ont appelé une Eurix. Sur les réseaux, en tout cas, canaux Telegram qui sont destinés justement à ces membres d'ultra-droite, hein, dans lesquels ils se vantent de leur bagarre, les raids qu'ils peuvent faire. Plusieurs posts ont été justement faits pour faire un compte-rendu de la bagarre, hein, et donc les journalistes de Street Press ont été les consultés. Dans ces posts, donc, on évoque un affrontement entre 120 et 150 Niçois contre ce qui serait une alliance d'une quarantaine de Parisiens. Des hooligans parisiens, eux, venus des Quarts Sud. C'est un groupe de supporters qui aiment bien la bagarre aussi, qui ont été exclus du collectif Ultra Paris. Et ils dirigent l'ambiance au Parc des Princes des supporters indépendants. En général, c'était ceux du virage Auteuil, qui sont eux aussi, ce ne sont pas des antifascistes, hein, c'est aussi des militants d'extrême droite, mais qui aiment bien se battre. Donc là, c'était une bagarre organisée entre deux clubs de hooligans, un petit peu de cette mouvance. Donc vous l'aurez compris, en tout cas, l'effet de bagarre ne concerne en tout cas pas toutes les agressions qui ont eu lieu cette soirée-là. Il y a quand même eu 6 blessés graves. Elles n'ont pas été relevées par les témoins. En tout cas, ceux qui étaient sur place n'ont pas vu la bagarre entre supporters de foot. Tous ceux qui ont été interrogés, notamment par Street Press, assurent que bah, justement, le premier groupe de Niçois est juste défilé au pas le long des quais en allant taper un petit peu tout ce qui ne leur plaisait pas. Donc tous ces jeunes qui boivent des coups dehors, visiblement, en ont fait les frais, notamment ceux qui étaient, comme on dit, racisés. Voilà, l'attaque pour eux était dirigée contre des passants ou des groupes qu'ils auraient pu identifier comme Antifa. Hein. Les personnes blessées gravement étaient aussi donc ciblées par leur apparence.
Zéro souci, antifasciste ! Zéro souci, antifasciste !
Voilà, des scènes donc, qui rappellent les milices des années 80, de skinheads qui se baladent dans Paris, décidés à castagner tout ce qui ne leur plaît pas. On va rester dans cette ambiance d'extrême droitisation, mais cette fois-ci, on va parler aussi des médias avec l'affaire Bolloré qui continue de faire des remous. Vous le savez sûrement, le 17 mai dernier, lors du brunch des producteurs de cinéma, le directeur du groupe Canal+, Maxime Sada, donc groupe Canal+, qui est possédé par le milliardaire d'extrême droite Bolloré, promettait une grande purge idéologique. Donc le patron, Maxime Sada, annonçait qu'il n'allait plus financer les artistes et travailleurs qui avaient signé une pétition anti-Bolloré, une pétition qui justement s'inquiétait de la mainmise du milliardaire sur le média et l'industrie cinématographique française, en faisant un petit peu aussi écho à ce qui s'était passé chez la maison d'édition quelques semaines, la maison d'édition Grasset, pardon, dans les semaines précédentes. Canal+ contrôle le cinéma français en l'arrosant d'argent. C'est en effet le premier soutien financier de l'industrie cinématographique du pays. Sans Canal+, donc la plupart des productions ne pourraient plus faire de films. Et avec cette menace d'être blacklisté, le risque que cette industrie culturelle déjà peu courageuse s'auto-censure est très élevé. Mais ces derniers jours, un petit revirement, un retour de flamme en tout cas contre Bolloré semble prendre corps. La tribune, donc, qui avait été signée par 600 personnes dans sa version initiale, elle a explosé. On est quasiment, ils annonçaient 4000 signataires le samedi dernier. Et surtout dans ces signataires, des acteurs et actrices de premier plan se sont joints ainsi que des réalisateurs avec des grands noms étrangers, ce qui va donner une visibilité et une légitimité à cette tribune. Par exemple, on peut citer Ken Loach, Javier Bardem, Mark Ruffalo des États-Unis, en France, Laure Calamy, Ruben Östlund, je crois qu'il est suédois, ou bien Léo Scarrax pour les grands noms. Et certains, d'ailleurs, ont rajouté des petits mots. Par exemple, l'actrice Anna Mouglalis, elle a comparé le blacklistage de Bolloré à la liste noire des signataires et à une forme de maccartisme actuel. Autre rebond intéressant, si on regarde un peu les gens qui ont signé justement maintenant cette tribune, c'est le collectif Zappé Bolloré qui a fait un petit peu ses calculs. Sur les 56 films français qui étaient présents cette année à Cannes, eh bien 48 comptaient un ou une signataire de la tribune. Donc s'il menait à exécution ces menaces, sur le millier de films produits ces 5 dernières années en chance, il y aurait au moins un signataire au générique de 600 films. Si ça devait donc être une menace appliquée, ça ferait beaucoup, beaucoup moins de films à l'écran. Bolloré se tirerait un petit peu une balle dans le pied parce qu'il a quand même besoin que ses films soient vus par le public. Pour couronner le tout, le groupe Canal+ est désormais assigné en justice pour discrimination envers justement les signataires de cette tribune. C'est la Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle qui veulent le voir en justice, car en effet, il rappelle que le groupe n'a aucun droit de censurer des créateurs sur la base de leurs idées politiques. Canal+ bénéficie en effet de privilèges, notamment l'autorisation de diffuser certains films en exclusivité à la télévision, et ce en échange de ses financements, mais ça ne lui donne pas le droit de choisir qui a le droit à la parole. La Ligue des droits de l'homme et la CGT Spectacle affirment d'ailleurs aussi envisager un recours devant la Commission européenne pour sanctionner l'abus de dépendance économique de Canal+, qui s'inscrit dans un schéma de concentration réactionnaire de tous les vecteurs de la culture élaboré par Vincent Bolloré.
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Voilà, un extrait d'OSS 117 avec Jean Dujardin qui n'a pas brillé non plus par son engagement au niveau de cette tribune. Bref, on va parler maintenant réchauffement climatique avec la canicule qui ne fait pas des dégâts qu'en France. 16 morts en Inde, des records de température au Royaume-Uni. Ces fortes chaleurs affectent aussi d'autres pays. Alors, j'ai parlé de canicule, mais ce n'est pas officiellement une canicule. Les termes sont un peu imprécis. Bref, des très fortes chaleurs. Notamment en Inde, où les habitants étouffent et les vagues de chaleur deviennent plus intenses. Au moins 16 personnes sont mortes dans l'état du Telangana en ce début de la saison chaude. Un responsable local de cette région qui est au sud de l'Inde avait appelé à une vigilance à l'échelle de l'état, alors que les températures dans le pays dépassaient les 45 degrés Celsius. Les températures atteignent régulièrement un aussi haut niveau en Inde, mais selon les scientifiques, ces vagues de chaleur sont devenues plus longues, plus intenses et plus fréquentes. Le 20 mai, ainsi, le département météorologique indien mettait en garde contre un risque de chaleur extrême qui s'aggrave à cause du phénomène El Niño qui arrive ces derniers jours. Le département météo insiste sur le fait que cette vague de chaleur ne diminuerait pas avant le 29 mai. En Europe, les pays ont aussi vu leur température exploser. On a enregistré 32 degrés en Espagne le 24 mai, 31 en Italie, 29 en Belgique et 28 en Autriche. Alors qu'en France, la vigilance jaune canicule a été étendue à 18 départements le 25 mai, le Royaume-Uni, lui, a vu son record de température pour un mois de mai être battu. On a atteint les 33,5 degrés près de Londres. C'était la première fois depuis 1944 où on avait à l'époque enregistré 32,8 degrés. Pour sa première encyclique, le pape Léon XIV, on va parler du pape justement, fait des encycliques pour donner son avis sur l'état du monde. Donc une encyclique, c'est une lettre solennelle qu'il adresse à l'ensemble de l'Église catholique. Eh bien, ce nouveau pape a choisi d'alerter sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Il a été rendu public hier, le lundi 25 mai. Ce texte s'appelle Magnifica Humanitas, donc Magnifique Humanité, et il appelle dans cette encyclique à désarmer la technologie de l'IA. Le pape déplore notamment l'empreinte environnementale des systèmes d'intelligence artificielle qui nécessitent des grandes quantités d'énergie et d'eau et ont un impact significatif sur les émissions de dioxyde de carbone. Il conspue également d'ailleurs les nouvelles formes d'esclavage sur lesquelles s'appuie l'IA. Il rappelle que dans certaines régions du monde, des adolescents et des enfants travaillent dans des conditions dangereuses au broyage des matériaux dont on tire les terres rares. Des corps marqués, mutilés, usés pour que le flux de calcul ne s'interrompe pas. Voilà, il rappelle donc quand même l'essence coloniale et donc profondément raciste de toute cette nouvelle technologie qui inonde la terre entière, mais quand même beaucoup l'industrie des pays occidentaux. Mais on peut parler aussi de la Chine, évidemment, etc. C'est pas un problème simplement nord-sud ou ouest-est. Magnifica Humanitas, donc le nom de cette lettre, s'interroge aussi sur les conséquences cognitives, sociales et morales de l'IA. Le paradigme technocratique dans lequel nous serions plongés, qui consiste à laisser la logique de l'efficacité, du contrôle et du profit régir à elle seule des choix personnels, sociaux et économiques. Cela s'est étendu avec l'IA. Et le pape continue en observant que cela risque de réduire les personnes à des rouages d'un système qu'il faut rendre toujours plus performant. Voilà, et on continue, on termine. Le pape s'inquiète notamment de l'utilisation militaire de l'IA dans un contexte de montée générale des tensions et des conflits. Cette technologie pourrait, écrit-il, abaisser le seuil du recours à la force, rendre les responsabilités opaques, alimenter une culture où l'ennemi est réduit à une donnée et la victime à un dommage collatéral. Léon XIV appelle donc à créer des cadres juridiques adéquats, une surveillance indépendante, afin d'empêcher cette technologie de dominer l'humain. Ça signifie la soustraire au monopole, la rendre discutable, contestable et donc habitable, en la restituant à la pluralité des cultures humaines et des formes de vie. L'encyclique que je viens de vous citer paraît 11 ans après Laudato Si, dans laquelle c'était le pape François, lui, qui appelait à sauvegarder la planète, notre maison commune, en rompant notamment avec le consumérisme. Et dis donc, si je m'étais dit qu'un jour je vous citerais du pape à l'antenne.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Et on ne sait pas non plus les implications qu'auront cette missive, mais en tout cas, le fond était pas mal. Justement, de l'IA, on va en parler avec le projet Campus IA, un gigantesque projet en Ile-de-France qui relance chez nous la lutte contre les data centers. Le Campus IA, annoncé comme le plus gros centre de données d'Europe, il est voulu par l'Elysée, et il doit être construit dans un petit village de Seine-et-Marne. Installé pour l'instant donc sur ce qui sont des terres agricoles, ce projet suscite la contestation des associations écologistes et des riverains. On est à Fougu, un village de Seine-et-Marne de 655 habitants. Eh bien, ces habitants s'apprêtent à accueillir un centre de données, un data center avec des dimensions hors normes. La taille de ce projet, c'est plus de 10 bâtiments donc de data center sur une surface de 90 hectares. Ça fait 126 terrains de football, puisqu'on compte en terrains de football maintenant, à la place donc de ce qui sont aujourd'hui des terres agricoles, pour la petite somme de 50 milliards d'euros. Et en termes d'énergie, une fois à pleine capacité, ce complexe devrait mobiliser 1,4 gigawatt de puissance électrique. C'est environ ce que produit un réacteur nucléaire. Ce projet, c'est la tête de gondole d'une politique gouvernementale nationale, souligne d'ailleurs Arnaud Saint-Martin, qui est député LFI de la Seine-et-Marne. L'Hexagone compte aujourd'hui plus de 350 data centers et plusieurs dizaines d'autres sont en projet ou déjà en construction. Pour celui-ci donc de Seine-et-Marne, un vrai monstre, l'énergie viendra largement donc de la centrale nucléaire voisine qui est à Nogent-sur-Seine, une centrale qui est par ailleurs vieillissante, explique le parlementaire. Pour lui, la vague de construction de data centers et la relance du nucléaire sont d'ailleurs liées. Face au gigantisme de ce projet, des citoyens et des associations viennent de créer un collectif informel. Ils ont organisé une conférence de presse le 13 mai dernier sur le parking de la salle communale du village. Un rassemblement a quant à lui lieu ce dimanche, avec notamment l'appui des soulèvements de la Terre. On va parler un petit peu de l'impact écologique de ce projet qui est assez dingue pour les habitants du village, qui est plutôt un village dortoir happé par l'agglomération parisienne. Donc je vous le disais, ça impliquerait l'artificialisation de 90 hectares de terre. Un site avec 11 bâtiments d'une hauteur de 20 mètres, 613 groupes électrogènes de secours. Tout ça présente des caractéristiques hors normes, notamment en termes de consommation énergétique, mais aussi d'empreinte carbone et de consommation foncière. C'est ce que mettait en avant la mission régionale d'autorité environnementale dans son avis qui a été rendu au mois d'avril. Les rejets aussi de ce type d'installation alertent les riverains et les associations. Dans ce rapport de l'autorité environnementale, toujours, il est expliqué que 15 tonnes de polluants de type PFAS, donc les polluants éternels, seront émises chaque année dans l'atmosphère. Le rapport conseille donc une évaluation du risque sanitaire de ces pertes. Une maraîchère bio implantée à quelques kilomètres de ce site explique par exemple que la pollution de l'atmosphère serait un sujet qui va les préoccuper, surtout quand on fait du bio, puisqu'on évoque des polluants éternels, des choses qui ne peuvent donc pas être ni diluées ni atténuées avec le temps. À côté de cela, les data centers, vous le savez, ont la réputation d'être très gourmands en eau, qui est utilisée pour refroidir les machines. Alors sur ce point, les porteurs du projet de Campus IA, eux, promettent que le site fonctionnera tout d'abord avec un système de refroidissement à sec, sans eau, mais donc pas sur le long terme. Et ils comptent aussi, je vous rappelle, sur la centrale nucléaire à côté qui, elle aussi, nécessite beaucoup d'eau. Tout cela, en tout cas, ne rassure pas la Confédération paysanne locale, alors que le département de Seine-et-Marne fait déjà face à des mesures de réduction de consommation d'eau en été, et même pour les agriculteurs. Par ailleurs, au niveau des terres agricoles, ce sont déjà 9 exploitations qui ont vendu leurs terres pour que le projet puisse se faire. Et c'est ce que regrette justement une membre de la Confédération paysanne. Mais à l'heure des tensions géopolitiques internationales qui vont grandissantes, c'est cet argument de la souveraineté numérique qui est mis en avant et qui explique aussi le regain d'intérêt pour ces data centers implantés en France. Celui-ci, donc Campus IA en Seine-et-Marne, il est développé justement par un consortium qui est composé de la Banque publique d'investissement BPI France, l'entreprise française d'intelligence artificielle Mistral, mais aussi de Nvidia, l'entreprise états-unienne qui est leader mondial de la production des processeurs graphiques qui est indispensable à l'IA. Et aussi, il faut le dire, le projet est abondé à 70% par un fonds d'investissement qui est basé aux Émirats Arabes Unis, qui sont partie prenante de toute cette gigantesque industrie de la tech, et le groupe s'appelle MGX. Voici ce qu'en dit un chercheur du CNRS, qui est spécialiste de ce sujet, et qui s'explique, qui parle sous couvert d'anonymat d'ailleurs, vous voyez l'ambiance. Il nous explique que ces grands data centers dédiés à l'intelligence artificielle sont présentés comme une garantie à la souveraineté numérique, ce qui justifie donc l'argent public et le soutien appuyé de la part des politiques publiques. Or, dit-il, c'est un oxymore de mobiliser ce concept de souveraineté, tant la technologie dépend des industries américaines, que ce soit pour les puces nécessaires, donc Nvidia, pour faire fonctionner l'IA, mais aussi du côté des logiciels, le software, sachant que le cloud, aujourd'hui, est vraiment dominé par Amazon, Microsoft et Google. L'enquête qui est toujours en cours doit se clore le 30 mai. L'association environnementale, elle demande une rallonge de 15 jours pour justement avoir plus d'éléments. Campus IA fera-t-il partie de ce qu'Emmanuel Macron a appelé les projets Notre-Dame C'est une 150aine de projets industriels stratégiques pour la France, d'après le président, et qui veut faire accélérer, quitte à justement s'asseoir un petit peu et simplifier, comme on dit, tout ce qui est réglementation environnementale. Bon, les projets Notre-Dame, nous on pense aussi plutôt au projet Notre-Dame-des-Landes, avec aussi, vous l'avez compris, une mobilisation qui commence à se faire. Hein. Ce dimanche, il y avait 200 personnes rassemblées au village malgré l'interdiction de manifester, et ils ont justement posé un petit peu des bases pour une lutte à venir. Voici ce qui s'est dit. Face au projet de Campusia, qui vise à bétonner 90 hectares de terre, représenterait à lui seul 20% de la consommation énergétique d'Île-de-France. Pour soutenir donc l'IA et l'armement, la lutte s'organise. Ces participants ont rejoint le village de Champeau à côté en vélo, fanfare et collectif. Les manifestants ont entamé et vont continuer des inventaires naturalistes pour montrer et préserver la riche biodiversité de la zone, avec comme espèce animale le bruyant proyer ou l'aluette des champs qui sont menacés. Ils ont aussi par ailleurs travaillé à un contre-projet avec les habitants et échangé sur un futur sans data center et sans IA. D'ailleurs, les soulèvements de la Terre qui se sont joints à la lutte vous invitent à dire tout le mal que vous pensez de ce projet à l'enquête publique. Il reste encore quelques jours. C'est sur registre-numérique.fr et les mots de clé, c'est EPU Campus IA.
C'était vraiment très intéressant.
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le vrai monde dehors. Et le vrai monde, il va chez le coiffeur.
Des nouvelles du monde.
Allez, on va terminer avec quelques brèves de ceux qui se lèvent tôt, justement, pour changer le monde. Des grains de sable dans la machine, c'était le nom de ces mobilisations qui ont eu lieu partout en France, des mobilisations contre le béton. Des militants et militantes se sont en effet mobilisés à travers toute la France contre les entreprises et les projets responsables de la bétonisation des sols, l'artificialisation. Ça s'est fait dans le cadre du printemps des luttes, donc une espèce de coordination de lutte écolo. La première qui a été rapportée dans les colonnes du journal Reporter, c'était des patates, pas du béton. C'était ce vendredi, avec des militants de l'école Agro, des militants d'Agro en lutte, mais aussi les Soulèvements de la Terre et la Confédération Paysanne d'Île-de-France. Ils ont mis en culture une partie d'une parcelle agricole, qu'ils ont planté des patates dedans. Cette parcelle est en effet destinée à être bétonnée sur le plateau de Saclay, qui devient une espèce d'énorme campus d'école et d'entreprise technologique, tandis qu'elle plantait des patates sur un terrain situé au pied des bâtiments d'Agro Paritech, donc l'école d'Agro. Une étudiante présente justement cette dissonance. Elle dit « On est dans une école qui forme des personnes qui pourront accompagner la transition vers l'agroécologie, mais on se retrouve sur un plateau agricole dont les terres sont coulées sous le béton. Cet ancien champ cultivé, donc, est désormais nouveau planté de patates, était pour l'instant une friche sur laquelle un panneau annonce en effet un permis de construire. Permis de construire pour l'entreprise Eurocontrol. Le nom de l'entreprise a pour objet d'optimiser la capacité de l'espace aérien, l'efficacité des vols, l'efficience des missions militaires et l'interopérabilité civilo-militaire dans le ciel européen. Voilà. Et elle souhaite donc construire là son hub d'innovation. Pour l'instant, on espère que la récolte de patates sera bonne. Deuxième action, c'était à Lyon. Des banderoles ont été affichées en haut de grues à plusieurs endroits de la ville contre la ligne LGV, ligne grande vitesse, Lyon-Turin. Quatre banderoles sur des grues au cœur du 7e arrondissement de Lyon, dans le quartier des Girondins. Stop au deuxième Lyon-Turin, pouvait-on lire sur l'une d'elles, ou laisse béton, exigeait l'autre. Des fumigènes ont été craqués pour l'occasion, pour immortaliser cela en photo. Avec donc ces messages perchés à plusieurs mètres du sol, les militants dénoncent en effet le chantier en cours de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, qui est un titan local menaçant des massifs entiers autant que des plaines et des vallées, puisqu'il est censé traverser les Alpes. C'est un projet pharaonique lancé dans les années 80, qui vise à construire donc une nouvelle liaison ferroviaire de 270 km de long, avec dans ces 270 km, 202 km de tunnels entre Lyon et Turin, et ce alors qu'il y a déjà une ligne ferroviaire, le tunnel ferroviaire de Fréjus, qui relie Modane en France à Bardonnèche en Italie. Deux autres équipes d'ailleurs en périphérie Lyon, le même moment, ont aussi déployé des banderoles depuis d'autres grues. On pouvait y lire « plus d'eau, moins de tunnels », puisqu'en effet avec ces tunnels, en perçant la montagne, le chantier va perturber le cycle de l'eau. Et ce sont des milliards d'euros qu'on pourrait mettre ailleurs, dans des projets, plutôt que dans des projets toujours plus gros, plus rapides et plus capitalistes. Il est rappelé aussi dans leur communiqué que le coût de cette ligne Lyon-Turin ne fait qu'augmenter depuis le lancement, hein, donc visiblement ils ont du mal à faire des devis. Il a été évalué pour l'instant à plus de 26 milliards d'euros, c'était en 2012 et c'était la Cour des comptes. Il n'est toujours pas trop tard en tout cas pour arrêter les frais, estime Extinction Rebellion. Alors que la mise en service n'est pas espérée avant 2035, seuls 20 km de tunnel pour l'instant ont été creusés à ce jour. Et on termine avec une autre action qui était dans l'Orne, à Montreuil, au Houlme plus exactement, une action pour dénoncer l'implantation d'une carrière de granulats appartenant au groupe de BTP Pigeon. Casse-toi pigeon, mange tes cailloux, massacre à la pelleteuse. Voici les slogans qui ont été criés et affichés pour cette action ce samedi 23 mai. Une petite commune de 125 habitants, donc dans l'Orne, que l'entreprise, dans laquelle l'entreprise Pigeon a obtenu l'été dernier une autorisation par la préfecture pour exploiter une carrière de 24 hectares, et ce sur 30 ans, en vue de produire chaque année 150 000 tonnes de granulats. À quoi bon ouvrir une carrière alors qu'il en existe une à moins de 30 km, la carrière de Vigna, qui fournit déjà presque 2 millions de tonnes par an. On va à contre-courant, c'est ce que s'insurgeait Nicolas Boualami, qui fait partie du collectif d'opposants Stop Carrière. Sur les 24 hectares du site d'ailleurs, 8 sont classés en zone Natura 2000. Le collectif d'opposants, donc, ainsi que France Nature Environnement, ont déposé un recours en annulation de cette autorisation d'exploitation auprès du tribunal administratif de Caen en octobre 2025. Ils en attendent toujours la décision.
Les béton.
Et voilà les amis, c'est sur cette action printanière de lutte qu'on se quitte. On se donne rendez-vous très vite à l'antenne pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas les chapeaux, ça va cogner.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à midi et demi sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.